Dans le cadre de ce cycle consacré à quelques questions posées à la foi chrétienne, cette séance donc portera sur les rapports entre science et foi, et on l'a intitulé de façon assez simple « La science contredit-elle la foi ?». Je vous signale que la dernière séance qui a été assurée par le frère Pascal, qui est ici présent, portait sur les récits bibliques de création, et donc la séance d'aujourd'hui exploitera un certain nombre d'éléments qui ont été donnés la dernière fois, mais pour ceux qui n'étaient pas là, j'en ferai un petit résumé. On le sait, la science moderne, ce que l'on appelle aujourd'hui la méthode scientifique, la démarche scientifique, est née au XVIIe siècle. Elle est née de la conjonction de deux héritages qui n'étaient pas forcément faits pour se rencontrer et qui se sont rencontrés. L'héritage d'un côté de l'empirisme, c'est-à-dire de la méthode expérimentale. Un scientifique est quelqu'un qui interroge la nature. Il ne se contente pas de la contempler, comme ferait un mystique, par exemple, ou un poète, mais il l'interroge, il la met en question. Ça, c'est la démarche expérimentale. Et cet héritage de l'expérimentation va rencontrer un autre héritage, qui est l'héritage, disons, de la mathématisation. C'est Galilée qui, le premier, au XVIIe siècle, a indiqué que la nature est écrite dans une langue qui n'est pas n'importe quelle langue, qui est la langue mathématique. Or, on peut dire que la naissance de la science moderne vient de cette convergence, de cette rencontre entre la démarche expérimentale et la mathématisation des phénomènes. Or, qui voyons-nous à la naissance de cette science nouvelle? Nous voyons des gens tels que Descartes, Galilée, Huygens, Boyle, Newton, Pascal, Leibniz, et quelques autres grands génies, je ne cite que les plus grands, que les plus connus, et curieusement tous croyants, et même d'ailleurs pour ceux que j'ai cités, en tout cas tous chrétiens. Alors on pourrait dire qu'ils étaient chrétiens parce qu'ils appartenaient à une société chrétienne. Or, la jonction est plus profonde puisque tous, sans exception, se sont interrogés en fait sur le rapport entre science et foi. C'est-à-dire comment ce discours scientifique peut-il s'articuler avec un discours théologique ou un discours religieux sur le monde. Quelques exemples. En Angleterre, nous avons ce que l'on appelle la « natural theology », qui est partagé par de nombreux savants comme Newton, mais beaucoup d'autres, Faraday ensuite, et même le premier Darwin, laquelle consiste à dire que, au fond, Dieu nous parle selon deux paroles, deux livres, même si le mot livre, vous le savez, pour le christianisme est toujours un petit peu gênant, puisque le christianisme n'est pas une religion du livre, mais enfin, disons deux paroles. Dieu nous parle par la parole inscrite dans la nature, c'est-à-dire par la nature elle-même, par les phénomènes de la nature, et Dieu nous parle par la parole révélée, comprendre la Bible. Or, si Dieu est l'unique auteur de ces deux paroles, eh bien ces deux paroles ne peuvent pas se contredire. Donc, pour le savant croyant, il s'agit de mettre en dialogue et de mettre en conciliation, en articulation, ces deux paroles. Voilà pour l'exemple de la natural theology anglaise. Du côté des Français, un Pascal, 25 ans après l'affaire Galilée, avec une espèce de désinvolture très pascalienne, va dire que, ma foi, il le dit pas comme ça évidemment, mais le tribunal ecclésiastique a fait une sacrée bourde en condamnant Galilée, parce qu'il était bien clair qu'il fallait distinguer entre l'approche scientifique des phénomènes et entre le message biblique. Je cite Pascal, c'est dans la 18e provinciale. Quelques propositions qu'on nous donne à examiner, il faut d'abord en reconnaître la nature. S'il s'agit d'une chose surnaturelle, nous n'en jugerons ni par les sens, ni par la raison, mais par l'écriture. S'il s'agit d'une proposition non révélée et proportionnée à la raison naturelle, celle-ci en sera le propre juge. Et Pascal ajoute à son interlocuteur jésuite imaginaire des provinciales. Vous savez que c'est un texte de polémique, en fait, où Pascal parle à un jésuite qui n'existe pas, en fait. Et donc Pascal interpelle ce jésuite inexistant en lui disant « Ce fut en vain que vous obtintes contre Galilée ce décret de Rome qui condamnait son opinion touchant le mouvement de la Terre. Ce ne sera pas cela qui prouvera qu'elle demeure en repos. » Donc vous voyez, un esprit profondément chrétien, profondément croyant, immense savant, traité avec désinvolture cette espèce de péripétie cléricale que fut l'affaire Galilée. Et je remonte 25 ans plus tôt, à Galilée lui-même, Galilée cite un ami religieux, c'est une citation qui est d'ailleurs très connue, « L'Esprit Saint ne nous dit pas comment va le ciel, mais il nous dit comment on va au ciel. » C'est-à-dire que la parole biblique n'est pas là pour nous décrire la composition du monde, sa structure physico-chimique, elle est là pour nous parler de notre salut. Et c'est Galilée lui-même qui le dit, et non content de le dire, il cite un religieux. Je pourrais prendre d'autres exemples, ceci pour montrer qu'au moment même où la science moderne naît, prend son essor, la distinction des ordres, d'une certaine façon, est relativement claire dans l'esprit de tous ces savants. Et c'est curieusement dans les siècles suivants, alors que les choses auraient dû sans doute se clarifier davantage, que les plans se sont obscurcis, se sont confondus, et à partir du XVIIIe, au XIXe et au XXe siècle, on est arrivé dans l'opinion la plus commune, hein, je dirais dans l'esprit de l'homme de la rue, à ce préjugé jamais discuté, que les vérités scientifiques, que la science, disons, ne peut que contredire les vérités religieuses. Et on ajoute en général une opinion de type historique, à savoir que l'Église se serait très systématiquement opposée au progrès scientifique. On a affaire là à une pensée de l'opinion, c'est-à-dire une pensée non critiquée, non vérifiée, mais assénée, répétée par les médias en particulier. Et pour répondre à une position idéologique, quelle sera donc ma méthode? Elle consistera à débusquer quelques obstacles, ce qu'on appelle des obstacles épistémologiques, c'est-à-dire pour parler clair, ce qui nous empêche de penser. Donc, je vais passer en revue quatre obstacles qui nous empêchent d'articuler intelligemment le plan scientifique et le plan théologique. Et quand j'aurai soulevé ces quatre obstacles, quand je les aurai débusqués, eh bien, on pourra commencer à travailler. Seulement, il sera 9h30, et donc à ce moment-là, nous prendrons la brioche. Voilà. Mais c'est une manière de renvoyer chacun ensuite à son travail personnel. Je cite par avance les quatre obstacles qui vont constituer les quatre parties de mon exposé. Premier obstacle, les récits bibliques de création. Ne sont-ils pas, à l'évidence, la marque de l'opposition foncière entre religion et science? Premier obstacle. Deuxième obstacle, c'est l'obstacle historique, l'opposition de l'Église à la science. N'est-ce pas un lieu commun bien connu? Troisième obstacle, ce que l'on appellera le scientisme, à savoir que le seul mode de connaissance valide, pertinent, rigoureux, serait le mode scientifique. Et enfin, quatrième obstacle, est un peu plus général, qui consiste à dire que l'athéisme est en soi, de soi, une position plus rationnelle que le théisme ou que l'attitude religieuse. Donc voilà les quatre obstacles auxquels je vais me confronter successivement. Et je commence donc par le premier. Premier obstacle, les récits bibliques de création ou l'incompréhension d'un genre littéraire. Pour ceux qui ont suivi la séance de la dernière fois, ils peuvent prendre 10 minutes de repos, penser à autre chose parce qu'ils savent déjà tout. On entend régulièrement dans les émissions « oui, mais enfin, le récit de la création en 6 jours » ou bien « le récit du début de la Genèse, le récit de la création, le récit bon. ». Ça montre bien que les gens n'ont jamais ouvert une Bible. Parce que même le plus paresseux d'entre nous, lisant les 3 premières pages de la Bible, découvre qu'il n'y a pas un récit de création, mais que d'emblée, il y en a 2. Donc Pascal David, la dernière fois, nous a fait travailler pendant 1 heure et quart ces deux récits en les mettant en parallèle, en en montrant la différence, la complémentarité. Alors, petite révision. Donc vous avez d'abord, si vous ouvrez le chapitre 1 de la Genèse, le premier récit qui est effectivement le récit de la création en 6 jours, hein, qui est une sorte de chant avec refrain. Dieu vit que cela était bon, et on voit émerger progressivement les plantes, le cinquième jour les animaux, et puis le sixième jour l'homme, hein, qui apparaît comme le couronnement de la création. Et juste après, brutalement, ça recommence. Et ça recommence autrement. Et les exégètes nous disent que ce second récit de la création, qui commence là, est en fait plus ancien que le premier. Il porte la marque des mythes babyloniens de façon bien plus tangible. Et l'on voit une création qui commence par la création de l'homme, modelé de la terre. J'ai oublié de rappeler que dans le premier récit, le sixième jour, l'homme est créé homme et femme, donc la polarité sexuelle est première. Et dans le second récit, l'homme est créé avant les animaux. Et il est d'ailleurs créé incomplet. Une espèce d'individu incomplet. Et le texte souligne justement cette incomplétude. Et Dieu fait défiler les animaux devant Adam, qui les nomme, marquant par là sa supériorité. Mais Adam ne trouve pas d'aide qui lui soit assortie. Et voilà que le complément de l'homme surgit. Et à ce moment-là, l'Adama, le terreux, puisque le mot Adam ne veut pas dire masculin, mais veut dire terreux, hein, celui qui vient de la terre, devient polarisé sexuellement, homme et femme. Bon. On a donc deux récits qui, si on les lit littéralement, si on imaginait cette idée saugrenue que ces récits nous parlent un discours scientifique, ces deux récits se contredisent d'une façon évidente. Bon. De sorte que ceux qu'on appelle les fondamentalistes chrétiens, donc on va trouver souvent dans certains mouvements évangéliques, sont des gens qui ne sont pas respectueux du texte biblique. Puisque d'emblée, ils en choisissent un des deux. Ils en choisissent un et rejettent l'autre. Forcément, s'ils gardent les deux, il y a contradiction. Donc, faire une lecture fondamentaliste des textes de création, c'est déjà ne pas rentrer dans un genre littéraire qui est un genre très spécifique, dont le but n'est en aucune façon de nous présenter un scénario scientifique. C'est pas le problème. C'est pas du tout la culture de l'époque, évidemment, et le texte, d'une certaine façon, a beaucoup plus à nous dire. J'ajoute qu'il n'y a pas deux récits de création dans la Bible, il y en a un grand nombre, puisqu'on en trouve dans les psaumes, on en trouve dans le livre de Job. C'est un genre littéraire à part en soi. Par ce genre littéraire, l'écrivain biblique célèbre la création, dit sa gratitude devant la merveille du monde et de la nature. Voilà la première idée, donc, qui est à rappeler, qui va de soi pour les gens qui fréquentent un petit peu la Bible. Il faut ajouter que l'idée biblique de création, donc, n'a pas grand chose à voir avec l'idée de commencement. La création n'est pas que le commencement. La création, c'est la donation de l'être. Dieu, ce que dit le texte, c'est que Dieu fait être. Hein, Dieu fait surgir du néant de l'être. Hein. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que Dieu a créé le monde. Un croyant pense que Dieu crée le monde, hein, que Dieu, à chaque instant, hein, et d'une façon extratemporelle, donne l'être, hein, au monde. Dieu n'a pas créé le monde autrefois, il le crée à chaque instant, il le maintient dans l'être. L'idée de création, donc, n'a pas grand-chose à voir avec l'idée de commencement. On verra à la fin qu'elle a peut-être quand même quelque chose à voir avec cette idée-là, mais pas seulement. Elle a surtout rien à voir avec l'idée de fabrication. Et pour le coup, ce sont nos mentalités techniciennes qui projettent sur le texte biblique une idée d'un Dieu ingénieur. C'est absolument pas la vision que le texte veut donner de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'idée de création? Puis je passe à la suite. Qu'est-ce que c'est que l'idée de création dans la Genèse? Comme le frère nous l'a dit la dernière fois, c'est l'idée, on pourrait dire, de relation. C'est-à-dire que quand on dit Dieu crée, ça signifie que Dieu fait surgir un être avec lequel il entre en relation. C'est l'idée de don. Ou c'est l'idée, disons, typiquement biblique, d'alliance. Donc, les récits de création sont un genre littéraire à comprendre d'un point de vue anthropologique. la place de l'homme dans le monde, l'homme comme être de relation, la polarité sexuelle, etc. Mais non pas comme un texte de scénario des origines. Voilà. Cela dit, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que l'anthropologie biblique, c'est-à-dire la vision de l'homme que ces textes manifestent et en quelque sorte fait surgir, cette anthropologie-là, justement, c'est elle qui va permettre l'émergence d'une démarche scientifique. Alors c'est ça que le paradoxe, c'est que les textes de la Genèse n'ont rien de scientifique, c'est pas leur problème. Ils visent beaucoup plus profond. Ils ont une visée anthropologique. Mais ces textes, par l'anthropologie justement qu'ils suscitent, qu'ils dévoilent, qu'ils manifestent, ces textes permettent de comprendre pourquoi la démarche scientifique est née dans le monde monothéiste, hein, et plus précisément dans le monde chrétien. Alors je l'argumente bien sûr, ça va pas forcément de soi, trois types d'arguments, trois ou quatre. Vous savez qu'une des grandes inventions de la Bible, c'est le temps orienté. Le texte biblique, à partir d'un commencement, de l'échelonnement des jours, hein, manifeste que brutalement nous sortons du texte, nous sortons du temps cyclique du mythe. Dans le mythe, le temps est cyclique, on est dans le retour du même, et à travers ce retour du même, une civilisation, une société peut se comprendre elle-même dans ses fondements. Le temps biblique est un temps qui nous arrache à ce temps cyclique pour nous introduire dans une histoire. Il y a un passé, il y a un avenir, il y a un accomplissement, il y a un chemin. D'ailleurs, Dieu dans la Bible apparaît toujours comme celui qui arrache de l'esclavage pour pousser vers un avenir. Or, ce temps orienté est précisément le temps qui permet la science. Dans un monde cyclique, il n'y a pas de science. Éventuellement, il y a une connaissance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de connaissance, attention. L'homme du mythe peut connaître, il peut même faire des mathématiques. C'est-à-dire qu'il peut être dans une science purement contemplative. Mais la démarche de l'expérimentation, c'est-à-dire la démarche qui fait entrer un homme en dialogue avec le monde, interroger le monde, susciter des techniques pour avoir une connaissance qui progressivement permet à l'homme de domestiquer le monde, ça vient de la Bible. Ça vient de la Bible. Cela va de pair avec la position très spécifique qu'a l'homme de la Bible vis-à-vis du cosmos. On a dit la dernière fois que le texte biblique est un texte qui désacralise. Il désacralise le cosmos. Les grandes divinités babyloniennes, les planètes, ne sont même pas nommées. Le texte dit, avec désinvolture, les grands luminaires. Surtout ne pas les nommer, ce ne sont plus des divinités. Ce sont des choses créées. L'homme est donc arraché aux fatalités cosmiques, il prend une position dominante sur le cosmos, et c'est lui qui sera non seulement le berger de cette création, mais celui qui aura à l'interpréter, à la faire parler en quelque sorte. Toujours dans le même sens, il est manifeste que le premier récit de la création est ponctué par « Dieu dit et cela fut ». Qu'est-ce qui est créateur ? C'est la parole. La parole, c'est ce qui est intelligible, c'est ce qui donne un sens. Cette création nous est présentée comme pénétrée par la parole, comme intelligible. Pour pouvoir faire de la science, il faut déjà être convaincu que le monde est intelligible. Quelqu'un qui serait convaincu que le monde est un pur chaos, ne pourrait pas faire de la science. Donc, vous voyez, il faut cette idée de création par la parole, création intelligible et parole à interpréter. Vous savez que la Bible n'est pas un texte dicté, dont il faudrait prendre acte et connaissance, mais c'est un texte inspiré. C'est-à-dire qu'il y a tout le travail de l'interprétation humaine. Eh bien, ce travail, c'est aussi celui de la science. Et pour conclure cette partie, cette première partie, je citerai une parole trop peu connue du livre de la Sagesse. Alors, c'est intéressant parce que le livre de la Sagesse, il a été écrit à l'époque grecque, à l'époque où les écrivains bibliques se confrontent à la culture grecque et à l'idéal du logos grec. Cette parole dit, c'est dans la Sagesse, donc chapitre 11, verset 21, « Tu as tout réglé avec nombre, poids et mesure. » Tu as tout réglé avec nombre, poids et mesure. Et on croit entendre Galilée disant « La nature est écrite en langue mathématique ». Voilà. Alors chez les Grecs, il y avait les pythagoriciens qui pensaient la même chose. Donc je suis pas, voilà. Mais il est intéressant de montrer que c'est cette anthropologie biblique qui permet la démarche scientifique. Donc voilà pour le premier obstacle. Cet obstacle, c'était une lecture fondamentaliste des textes de la Genèse est une lecture qui ne lit pas les textes de la Genèse. Je prends parfois cette comparaison quand je m'adresse à des élèves. Pardon, je vais vous parler comme à des élèves. Ça n'a pas duré longtemps. Quand quelqu'un dit le texte de la Genèse, les textes de la Genèse sont à lire comme une description. Lorsque quelqu'un dit ces textes de la Genèse sont idiots parce qu'on voit bien que ce qu'ils racontent n'a rien à voir avec ce que dit la science, c'est à peu près comme si l'on disait les fables de La Fontaine sont idiotes parce que chacun sait que les animaux ne parlent pas. C'est-à-dire on n'est pas rentré dans un genre littéraire. On n'a pas compris l'intention de l'auteur et du coup on fait dire à un texte ce qu'il ne veut pas dire. Et le pire c'est pas ça, le pire c'est qu'on loupe ce qu'il a à dire qui est d'une très grande richesse comme on l'a vu à la dernière séance. Voilà donc pour le premier obstacle, une lecture naïve de la Bible, comme ne comprenant pas donc de quel genre littéraire elle procède. Deuxième obstacle, donc c'est un obstacle de relecture historique, l'opposition souvent invoquée de l'Église au développement de la science, au progrès de la science. Un certain ministre de l'Éducation nationale, récemment, a encore fait quelques allusions dans ce sens, et comme par hasard, il est retombé sur les deux exemples toujours cités, auxquels je vais me consacrer trop brièvement dans un instant. Pourtant, si on était un tout petit peu honnête, on pourrait s'amuser à faire une liste des parmi les plus grands savants, ceux dont l'autorité est la plus incontestée, de ceux qui furent des croyants. Cette liste est très longue. Depuis Chanoine Copernic, qui est quand même celui qui est le premier à poser l'hypothèse héliocentrique, en passant par Kepler, qui fut le grand astronome à l'époque de Galilée. Les génies du XVIIe, je les ai déjà cités tout à l'heure, je n'y reviens pas. Au XVIIIe siècle, je citerai le jésuite Boscovitch, astronome, mathématicien, opticien. Le grand naturaliste Linné, celui-là c'est un nom particulièrement connu, un fondateur de la biologie systématique. Au XIXe siècle, où on pourrait s'imaginer que le scientisme, dont je parlerai tout à l'heure, gagne et fait des progrès, les grands savants croyants sont très nombreux. En particulier tous les pères fondateurs de l'électromagnétisme, Ampère, qu'on connaît bien ici, mais aussi ceux qui ont poursuivi son œuvre, c'est-à-dire Faraday et Maxwell. Ampère est catholique, Faraday et Maxwell appartiennent à des églises protestantes. Chez les mathématiciens, Cauchy, plus grand mathématicien français du 19e, est catholique. Bolzano est un prêtre. Ce sont les fondateurs de l'analyse moderne. Chez les biologistes, Pasteur, Mendel, qui, comme chacun sait, le fondateur de la génétique, est un moine, etc. etc. Au XXe siècle, on peut en citer Eddington, Louis de Broglie. Chez les logiciens, chez les mathématiciens Cantor, le fameux Cantor de la théorie des ensembles, qui a une histoire assez curieuse, puisque il avait fait beaucoup de théologie dans sa jeunesse et il prétend, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais il le dit lui, que donc c'est la théorie, vous savez, Cantor c'est celui qui a classé les ordres d'infini, et il dit que sa théorie des nombres vient d'une méditation sur le mystère de la Trinité. Bon, c'est intéressant. Je ne vous ferai pas la démonstration ce soir. Bon, jusqu'à l'abbé Lemaître, le pauvre abbé Lemaître qu'on ne cite jamais, qui est l'inventeur de la théorie du Big Bang. Celui qui a remarqué que les équations d'Einstein permettaient un univers évolutif, et qu'Einstein a voulu corriger en introduisant sa fameuse constante, chose qu'il a ensuite considérée comme la plus grande erreur de sa vie. Ce petit inventaire est idiot, j'en ai conscience. Il y a eu de très grands savants athées, mais pas tant que ça. Et donc, de temps en temps, il est important de remarquer que la sensibilité métaphysique n'est pas un obstacle à la science. Mais quand même, je voudrais en arriver aux deux grandes affaires qui ont fait couler tant d'encre et qu'on invoque systématiquement pour stigmatiser l'opposition de l'Église institutionnelle à la science. La première affaire, c'est évidemment l'affaire Galilée, Je vous rappelle quand même l'époque, hein, 1616, pour la mise à l'index de Copernic, qui jusque-là, donc depuis 60 ans, 70 ans, était tout à fait toléré dans les enseignements. Et donc, 17 ans plus tard, 1633, donc la condamnation de Galilée. Là encore, si on veut vraiment faire une étude sérieuse de cette affaire, et je ne peux pas la faire en 5 minutes, donc là ça va être un petit peu du massacre, mais je vous renvoie à n'importe quel livre, au fond, sur l'affaire Galilée. Il faut mettre les choses dans le contexte. Au moment de l'affaire Galilée, parmi les plus grands physiciens sont beaucoup de jésuites, beaucoup d'hommes d'église, beaucoup de jésuites. Je citerai par exemple le père Clavius, l'Euclide du XVIe siècle, comme on le surnommait, mathématicien, astronome, ami de Galilée, qui a confirmé les observations astronomiques de Galilée, mais combattu la doctrine copernicienne qu'il jugeait mal fondée. Un autre père jésuite célèbre, le père Scheiner, la génération d'après, celui qui a montré que la rétine était le siège de la vision, qui pensait que Vénus et Mercure tournaient autour du Soleil, et qui rentra dans une opposition personnelle à Galilée à cause de la primauté de l'observation des taches solaires. Bon, ce qui montre aussi que dans les grands débats scientifiques, les questions de susceptibilité personnelle jouent un rôle. Hein. En France, c'est le père Marin Mersenne qui est l'animateur de cette espèce d'académie informelle où gravitent Fermat, Pascal, Gassendi, Descartes, Torricelli, Desargues. Et le père Marin Mersenne, en pleine affaire Galilée, enseigne l'héliocentrisme de Copernic en toute impunité, je dirais. Alors que s'est-il passé avec Galilée? Là encore, alors, je vais schématiser, pardon, mais au moins, ce qui est intéressant, c'est quand on creuse un peu cette affaire, on se rend compte qu'elle pose de vraies questions. On peut dire qu'au fond, l'affaire Galilée, c'est la résultante de trois blocages. Plus que des malentendus, des véritables blocages. C'est pour ça que ça a tourné finalement à une opposition rude. D'abord, un certain nombre de théologiens, alors faut se rendre compte qu'on est dans l'ambiance du Concile de Trente, et donc la question de l'interprétation biblique est devenue une question délicate. Il y a tout le protestantisme derrière. Et un certain nombre de théologiens, il faut le dire, font un véritable blocage sur la lecture du texte biblique. Alors que d'autres acceptent parfaitement l'idée qu'un texte doit être interprété, certains pensent qu'il faut le lire de manière littérale. Donc premier blocage de certains théologiens sur la lettre biblique. Second blocage des théologiens et des universitaires, parce que Galilée a eu plus de problèmes avec les universitaires aristotéliciens qu'avec les hommes d'église dans un premier temps. Les universitaires défendent une vision du monde qui est la vision du monde d'Aristote, hein, qui est celle d'un cosmos. Qu'est-ce que c'est qu'un cosmos? C'est un, il faut justement pas prononcer le mot univers. Hein. Le cosmos, c'est le monde qui est le nôtre, où selon les régions du monde, si vous êtes dans les phénomènes terrestres ou au contraire dans les phénomènes célestes, ce ne sont pas les mêmes lois qui doivent prévaloir. Hein. Et donc, on a un monde hiérarchisé, avec des zones d'être différentes. Et c'est justement cet univers-là que l'héliocentrisme va faire éclater. C'est cet univers-là que Copernic, Galilée, Kepler et les autres, finalement, vont révoquer en doute. Et là, il y a un véritable blocage, disons, philosophique, hein, sur quelle représentation de la nature devons-nous nous faire. Le vrai enjeu de l'héliocentrisme, c'est pas qui tourne autour de qui, hein. Ça, d'un certain point de vue, c'est les deux. Hein. L'enjeu de l'héliocentrisme, c'est cette idée que nous n'avons pas un cosmos avec des zones d'être différentes, nous avons un univers, c'est-à-dire une entité homogène où les mêmes lois physiques sont identiques partout. Un univers, hein, l'idée de loi universelle. Hein. C'est ça l'héliocentrisme, c'est ce en quoi l'héliocentrisme est révolutionnaire. C'est pas qui tourne autour de qui. Voilà. Et puis, troisième blocage, un blocage de type méthodologique, hein, c'est-à-dire, au fond, la science, que dit la science? Est-ce que la science dit la vérité des choses ou est-ce qu'elle essaye de nous les représenter d'une façon logique? Et là, on va avoir affaire à un certain nombre de positions philosophiques qui sont très intéressantes parce qu'elles sont toujours actuelles. Et on va avoir affaire en particulier à un extrême, à ce qu'on appelle aujourd'hui le réalisme naïf. Le réalisme naïf, c'est le réalisme de vous et moi, c'est-à-dire de l'homme de la rue, qui pense que la science lui dit les choses telles qu'elles sont. Alors qu'il y a des atomes qui sont des petites billes qui tournent, etc. Bon, ça c'est le réalisme naïf, qui ne comprend pas que la science c'est toujours un discours d'élaboration conceptuelle sur des données expérimentales. C'est-à-dire que la science, elle procède par construction intellectuelle. Il y a une dimension de rationalisation des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Le réaliste naïf pense qu'effectivement, les choses sont telles que la science nous les présente. Il ne comprend pas l'idée de modèle, par exemple l'idée de modèle physique ou de modèle mathématique. Voilà. Galilée était, comme Copernic d'ailleurs, c'était des réalistes naïfs. Copernic tenait très fort à l'idée que le Soleil était immuable au centre de l'univers et que les planètes tournaient autour du Soleil, qui est une idée naïve, qui est moins fausse que l'idée géocentrique, mais qui est, dans son réalisme, tout à fait naïve. Or, ce que certains hommes d'Église m'ont reproché à Galilée, et là ils avaient raison, en particulier c'est Bellarmin, c'est de parler comme si les choses étaient selon le modèle et non pas comme on fait aujourd'hui en disant tout se passe comme si. C'est-à-dire un discours, si vous voulez, un discours scientifique mature, c'est un discours qui dit tel modèle est supérieur à tel autre pour telle et telle raison. Tel modèle représente mieux les phénomènes que tel autre. Mais pas les choses sont ainsi. Voilà. Pensez aujourd'hui, par exemple, à la représentation de la lumière. Aujourd'hui, on ne peut pas dire la lumière, c'est une onde. On ne peut pas dire la lumière, c'est un phénomène corpusculaire, puisque d'une certaine façon, c'est les deux, et selon les circonstances, c'est l'un ou c'est l'autre. Voilà. Alors, vous voyez qu'on est face à des... Alors, il faudrait creuser beaucoup plus. Mais on est face à des blocages de méthode sur la Bible, sur la démarche scientifique elle-même et sur, disons, la représentation du monde. Voilà. Cela explique donc les espèces d'incompréhensions qui vont se cumuler, plus, alors il faut ajouter à ça toujours le facteur psychologique. Galilée est un homme absolument génial, à bien des égards, mais un homme tout de même très supérieur et qui n'hésitait pas à insulter ses adversaires, pygmées mentaux, disait-il, bon, etc. Et il a affaire à des gens qui sont quand même, donc le cardinal Barberini, qui est un ami, et Barberini lui dit, Barberini, donc, qui est ami de Galilée, devient pape, Urbain VIII, et dit à Galilée, bon, ok, vous défendez l'héliocentrisme, eh bien, écrivez un livre pour comparer les deux théories, la théorie antique, celle de Ptolémée, qu'on appelle le géocentrisme, et puis votre théorie, c'est plutôt celle de Copernic, faites la comparaison de façon objective, rationnelle, etc., et puis pour développer des arguments pour l'une ou pour l'autre. Et vous savez ce qu'a fait Galilée, donc c'est que il a effectivement présenté la comparaison sous la forme d'un dialogue, et dans les trois personnages du dialogue, il y en a un qui s'appelle Simplicio, et qui est le naïf et qui représente, en tout cas le pape s'est senti fortement visé par ce personnage. Et comme Galilée en plus a eu l'imprimature par intrigue, la bombe était lancée. Ça ne veut pas dire que l'Église a eu raison de condamner Galilée, elle a eu tout à fait tort de le condamner. Le problème, c'est pas que Galilée avait tort ou avait raison, le problème c'est que l'Église n'a pas à se prononcer sur des vérités de l'ordre des sciences de la nature. Mais on est à une époque où la position dominante de l'Église sur la société, sur la culture, a bien des avantages, parce qu'elle a vraiment suscité des vocations de savants chrétiens et de religieux savants, mais aussi a de gros inconvénients. Et donc l'affaire Galilée, en tout cas, jouera le rôle d'émancipation de la science par rapport à la tutelle cléricale, et ça c'est juste. Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette vilaine querelle, cette méchante querelle, cette bête condamnation qui est apparu d'ailleurs très très stupide, en particulier en France, n'a rien à voir avec l'opposition entre d'un côté des savants rationalistes, plus ou moins athées, héros de la science, et puis une institution cléricale dépassée, réactionnaire, fermée, bornée. En fait, c'est un débat au sein de la chrétienté. C'est un débat au sein de la chrétienté, c'est un débat au moment où la science moderne naît et tâtonne sur ses méthodes, un débat au moment où l'interprétation biblique se cherche et où la représentation du monde se cherche. Dans ce contexte-là, il est assez normal que des tensions des tensions s'exaspèrent et que surgissent des affaires telles que celle-ci. Mais on ne peut pas en faire un mythe, celui du héros de la raison affronté à l'institution obscurantiste. Si vous voulez des précisions sur l'affaire Galilée, je l'ai pas mal travaillé, donc on pourra aller un petit peu plus loin, mais je voulais aller un petit peu à l'essentiel. Et j'ai d'ailleurs pris un peu de retard. J'arrive à la deuxième grosse affaire, qui n'est pas une affaire d'ailleurs pour le coup, c'est l'opposition prétendue de l'Église par rapport, disons, au transformisme ou au darwinisme, c'est-à-dire à l'idée de la transformation continue des espèces. Alors, je rappelle que l'Origine des espèces, livre de Charles Darwin, date de 1859 en version anglaise, et que l'Église n'a jamais condamné, contrairement à l'héliocentrisme de Galilée, l'Église n'a jamais condamné le darwinisme. En revanche, de très nombreux hommes d'Église, à titre plus ou moins privé ou plus ou moins officiel, ont mis en garde contre certains discours évolutionnistes. Alors pourquoi ? Je vais résumer ici un séminaire qui a eu lieu ici même il y a, je crois, 3 ans, qui a duré 6 ou 7 séances, animé par Frédéric Croulet, qui disait, au fond, quand on parle du darwinisme ou de l'évolutionnisme, on parle souvent de 3 choses qu'il faut bien distinguer. La première de ces choses, c'est l'évolution en tant que fait. Le fait que l'on a pu constater, que l'on peut constater très facilement, le fait de l'évolution, y compris sur des périodes temporelles d'ailleurs assez courtes, lorsqu'on observe des mutations au sein d'une même espèce. L'évolution est un fait que nul n'envisagerait de contester en tant que tel. Alors je rentre pas dans les débats microévolution, macroévolution, je dis au moins au niveau microévolution, c'est un fait. Bon. Deuxième niveau, les théories de l'évolution. C'est-à-dire, un fait, c'est une chose, mais la science, elle n'est pas faite pour collectionner les faits, elle est faite pour les expliquer, les interpréter. Et donc là, la question, c'est la question des mécanismes de l'évolution. C'est le travail de la science. Plusieurs hypothèses ont été formulées, lamarckienne, darwiniste, néo-darwiniste. C'est le travail de la science. Et elle n'a pas fini de travailler, et tant mieux, c'est sa vocation d'avancer comme ça. Mais troisième niveau, et c'est là que les choses peuvent se gâter, c'est qu'à partir de faits scientifiques et d'esquisses de théories, on arrive à déployer ce que l'on pourrait appeler une idéologie évolutionniste. Et c'est ce contre quoi ont mis en garde certains chrétiens, certains hommes d'Église. Ont-ils eu tort ? Pour le coup, je ne pense pas qu'ils aient eu tellement tort. Parce que, de fait, il est amusant de voir, par exemple, des professeurs de biologie, il y en a dans la salle, on ne dit plus biologie, mais bon, des professeurs de biologie quand même, qui disent « Ah ben moi, je suis un darwinien ». Bon. Et alors c'est amusant parce que c'est comme si un professeur de physique disait « Ben moi, je suis un einsteinien ou un newtonien ». Jamais un professeur de physique aurait l'idée de s'identifier à une théorie. Bon, il y a des théories plus ou moins performantes, certaines sont dépassées, d'autres non. Bon. On voit bien qu'il y a quand même une dimension de croyance, dans une espèce de paradigme de l'évolution, une espèce de vision synthétique, à laquelle il faudrait adhérer comme une espèce de foi religieuse. Or, malheureusement, dans un certain nombre de cas, cette croyance s'accommode d'une vision matérialiste. C'est-à-dire qu'on tire prétexte du fait de l'évolution pour développer une idéologie qui n'a plus rien de scientifique, hein, qui est une idéologie métaphysique, hein, qui est le matérialisme. C'est-à-dire, au fond, l'évolution nous montre bien que de la matière peut surgir la pensée, l'esprit, etc., d'une façon continue, sans rupture, et on est donc dans un discours matérialiste. Cela est discutable, parce qu'il y a le franchissement d'un cap entre théorie scientifique et discours métaphysique. Les choses se gâtent encore lorsque cette idéologie matérialiste devient une idéologie du type darwinisme social ou du type eugéniste. Et là, je vais rappeler, ça va être très désagréable, mais il faut quand même le faire de temps en temps. En France, le livre de Darwin, donc vous savez, a été traduit 3-4 ans plus tard, en 1862, et il a été préfacé par une femme qui s'appelle Clémence Royer, une militante pour un certain nombre de causes que je vais décrire maintenant, puisque je vais lui céder la parole. Alors je vous dis tout de suite que Darwin a poussé des cris en lisant cette préface, a tout de suite dit qu'il ne se reconnaissait pas dans cette idéologie-là. Mais c'est intéressant de voir comment cette femme a tiré le darwinisme vers une idéologie de type racialiste. Voilà ce qu'elle écrit. « Les données de la théorie de la sélection naturelle ne peuvent plus nous laisser douter que les races supérieures ne se soient produites successivement et que par conséquent, en vertu de la loi de progrès, elle ne soit destinée à supplanter les races inférieures. Cette théorie conclut en politique au régime de la liberté individuelle la plus illimitée. » C'est la naissance aussi du capitalisme en Angleterre. « C'est-à-dire de la libre concurrence des forces et des facultés comme de leur libre association. La loi morale pour toute espèce est celle qui tend à sa conservation, à sa multiplication, à son progrès. » Si certains sont intéressés, j'ai le texte complet qui est assez impressionnant, donc qui est une déclaration de guerre et au socialisme et au christianisme. Et l'affirmation de l'inégalité des races appuyée sur Darwin. Je le répète, Darwin ne s'est absolument pas reconnu dans ce discours. Mais on voit comment, d'une théorie scientifique, on peut extrapoler une doctrine idéologique. Pour conclure cette partie qui a été un petit peu trop longue, il est donc faux d'affirmer, de répéter de façon machinale que l'Église a résisté au progrès scientifique. Au contraire, elle l'a plutôt globalement encouragé, quelles qu'aient été les tensions liées aux articulations difficiles à trouver entre discours scientifique, discours philosophique et interprétation biblique. Cependant, l'athéisme de type scientifique, c'est-à-dire celui qui est né au XVIIIe siècle, va surtout essayer de se prévaloir des succès de la science, avec cette idée que la science, finalement, dans ses succès, il est vrai extraordinaire, est supposée tout expliquer, et donc rendre tout autre type d'explication inutile. Il s'agit donc d'ériger la science en un savoir absolu. C'est le travail de ce que l'on appelle le scientisme. Et donc j'arrive à mon troisième obstacle, qui consiste à dire, alors je le dis d'une façon évidemment un petit peu schématique, mais beaucoup de nos contemporains ont ceci comme référence, il n'y a qu'un seul mode de connaissance valide pour les phénomènes du monde, c'est le mode scientifique. Cette idéologie s'enracine dans une philosophie qui s'appelle le positivisme, inventé par un polytechnicien français célèbre, Auguste Comte. Alors, Auguste Comte, c'est une philosophie du progrès. De ce point de vue-là, elle poursuit le travail des Lumières, de Condorcet. C'est l'idée que le progrès est quelque chose à la fois de nécessaire, d'irréversible, et que on peut prédire en quelque sorte la loi de l'histoire par avance. Ce que dit Auguste Comte, je vais le résumer un petit peu. Auguste Comte dit que toute société, tôt ou tard, va passer par trois stades dans son évolution. Trois stades qui sont d'ailleurs tout à fait nécessaires et légitimes. Le premier stade est le stade théologique, mettons pour faire simple le stade religieux, où l'homme, dans son dénuement, interprète les phénomènes du monde selon des forces, des esprits et des vertus occultes hein, et spirituelles. Ça, c'est le stade théologique ou religieux. Ensuite, l'humanité, s'approfondissant elle-même, passe à un stade dit métaphysique, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus de ces phénomènes surnaturels, étranges, mais on passe à des concepts, à des idées générales. C'est le discours de la métaphysique, c'est Descartes, si vous voulez. Alors, on parlera de l'âme, on parlera du monde. On parlera par exemple du déterminisme, on parlera de la causalité. C'est le stade métaphysique. Et puis, finalement, dans sa maturité, l'humanité doit arriver tôt ou tard au troisième stade. Le troisième stade, c'est le stade positif, d'où positivisme, où cette fois, seule la description des phénomènes par des lois scientifiques a valeur de connaissance. La seule connaissance valide, c'est la connaissance de type scientifique, qui pour Auguste Comte, parce que on peut discuter de sa vision de la science, consiste à rassembler des faits sous des lois. La science rassemble des faits et les organise par des lois. Elle ne fait que cela, au fond elle n'explique rien, elle décrit les choses, et elle est le seul mode valide de connaissance. Alors, il faudrait prendre un peu de temps pour critiquer le positivisme et surtout critiquer cette pathologie de notre culture qui l'a engendrée, qu'on peut appeler le scientisme. Donc, qu'est-ce que c'est que le scientisme ? C'est toute affirmation qui n'est pas posée en termes scientifiques est vide de sens, dénuée de sens. Une affirmation qui n'est pas posable en termes scientifiques, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas vérifier par des procédures scientifiques, n'a pas de sens. Par exemple, Dieu existe, c'est ni vrai ni faux, c'est une affirmation qui n'est pas posable en termes scientifiques, qui ne propose pas de procédure de vérification scientifique. C'est donc une affirmation dénuée de sens. Donc ça, c'est le scientisme. Alors, il y aurait plusieurs manières de critiquer le scientisme. On pourrait le critiquer par rapport à sa fécondité culturelle qui est de l'ordre de la catastrophe, puisqu'au fond, il disqualifie toute forme de connaissance philosophique, métaphysique, poétique, et engendre une culture, au fond, ennuyeuse et désabusée. On pourrait critiquer le scientisme en disant qu'il a fait beaucoup de mal à la science. D'ailleurs, les grands savants ne sont pas du tout scientistes. On peut penser à Einstein, par exemple. Quand Einstein dit « la semence de toute science véritable, c'est l'émotion mystique », c'est un peu surprenant. En tout cas, ce n'est pas scientiste. Il consiste à dire qu'au fond, un esprit ne peut... un esprit ne peut produire une interrogation scientifique que s'il est d'abord capable de s'émerveiller face au mystère du monde. Ça, Platon l'avait dit bien avant Einstein. Mais là, c'est un très grand physicien qui parle. Le scientisme n'a pas compris ça. Le scientisme n'a engendré aucune vocation scientifique. Et d'ailleurs, si aujourd'hui il n'y a plus de vocation scientifique, à mon avis, c'est plutôt à cause de ça. Moi, je suis désespéré de voir les plus beaux esprits fuir les carrières scientifiques. Enfin, c'est dramatique. Et à cause de quoi ? Quelle vision de la science leur donne cette culture scientiste qui imprègne tout ? C'était la séquence polémique, je la referme. Mais la critique la plus efficace du scientisme est la suivante. On va faire 30 secondes de philosophie. Le scientisme affirme quoi ? Il affirme la seule connaissance valide est la connaissance de type scientifique. Mais comment peut-on affirmer cela sinon en se plaçant au-dessus de la connaissance scientifique ? Autrement dit, cette proposition-là, elle-même n'est pas de type scientifique. C'est une proposition métascientifique. Mais justement, le scientisme nous dit qu'une telle proposition n'a pas de sens. Donc le scientisme nous dit que le scientisme n'a pas de sens. Que la proposition, que l'affirmation scientiste est elle-même vide de sens. Puisqu'elle-même n'est pas scientifiquement vérifiable ou affirmable. Bon. Contrairement à ce postulat scientiste, donc il faut bien l'appeler un postulat, il est bon de comprendre qu'une réalité peut être approchée selon plusieurs perspectives. Parfois, j'utilise une petite parabole et je vais l'appliquer ce soir au collège supérieur. Je me dis, tiens, il y a un collège supérieur un peu perdu, on ne sait pas trop ce que c'est. On va essayer de comprendre ce que c'est. Alors, de quelle manière vais-je connaître le collège supérieur ? Eh bien, je peux le connaître d'une façon historique. Et je vais consulter le fondateur en lui demandant, bah, racontez-moi l'histoire de cette institution. Première approche. Je peux me dire, le collège supérieur, c'est des murs, c'est un lieu, c'est du béton, c'est des formes. Et donc, je vais consulter l'architecte qui me dira, oui, le collège supérieur, c'est ça. Ça a été calculé ainsi, ça a été construit ainsi. Je peux consulter le surveillant qui va me parler des élèves qui sont ici, puisque le collège supérieur est un lieu de formation. C'est donc un lieu pour des étudiants. Je peux consulter le directeur qui me parlera des enseignants en me disant, le collège supérieur, c'est un lieu d'enseignement, etc. Tous ces points de vue sont évidemment complémentaires et m'aident à mieux cerner cet unique objet qu'est le collège supérieur. Mais voilà que surgit de son bureau le comptable qui me dit « Moi, monsieur, j'ai une connaissance du collège supérieur bien supérieure aux autres, puisque je peux vous en faire l'histoire comptable, entrée et sortie d'argent, il y a plus de façon sur ce sujet pénible, au centime d'euro près. Et voilà une connaissance exacte de type scientifique. Le scientisme consiste à dire que seul le point de vue du comptable est le bon et que les autres points de vue n'ont pas de validité. Voilà une petite parabole pour expliquer l'erreur du scientisme. Appliquons cela à la connaissance du monde. De quelle manière pouvons-nous connaître le monde ? J'ai perdu mon texte. Souvent, on oppose la science à la foi, c'est même le sujet de ce soir, comme s'il n'y avait que deux manières de connaître le monde, la manière scientifique et la manière religieuse ou théologique. Moi, j'en vois au moins deux autres. La première manière qu'on pourrait déployer, c'est l'approche esthétique. L'approche disons, symbolique du monde, par l'art, la contemplation de l'artiste, par le mythe. Le mythe me parle, me donne la signification du monde à travers de grandes images symboliques, par le poète. La terre est bleue comme une orange, dit Éluard. À travers le jeu des symboles, le jeu du langage, faire sentir une vérité du monde qui n'est pas scientifique, qui n'est pas non plus philosophique. Ça, c'est l'approche, disons, esthétique. Deuxième approche, l'approche scientifique. On en a parlé, je n'insiste pas. Troisième approche, celle qu'on oublie tout le temps, l'approche philosophique. Qu'est-ce que c'est que le monde ? Pourquoi existe-t-il ? Leibniz, hein, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Il ne s'agit pas d'interroger la structure mathématique ou physique du monde, il ne s'agit pas d'interroger ses atomes hein, ou les grandes forces qui en assurent la cohésion, il s'agit d'interroger son être même. Quel est le sens de l'être du monde ? Ça, c'est l'approche philosophique. C'est celle qu'on oublie. Je tire le lapin du chapeau parce que c'est à ça que je veux arriver. Hein. C'est que comment articuler les différents discours par la critique philosophique ? Et puis, une dernière approche, l'approche, disons, théologique. L'approche théologique, pour en dire deux mots, en tout cas en climat biblique, Elle, on peut dire qu'elle empiète sur d'autres domaines, elle empiète sur le domaine, sur l'approche métaphysique. Toute religion, toute grande religion se fonde sur une métaphysique. Mais elle empiète aussi sur une approche esthétique. On peut dire que les textes de la création sont une manière poétique de nous dire quelque chose du sens théologique du monde. À travers ces grands poèmes de la création, la Genèse nous dit que le monde est donné à l'homme, hein, qu'il est un don. Voilà. Donc, je termine cette troisième partie en concluant que l'erreur du scientisme, hein, c'est de resserrer la connaissance sur un seul mode de connaissance, qui est le mode scientifique. Et en resserrant la connaissance sur cet unique mode, elle fait beaucoup de tort à la culture, mais elle fait beaucoup de tort à la science elle-même. Ce qui est quand même le paradoxe. J'arrive à mon dernier obstacle, courage. Quatrième obstacle. Celui-ci est aussi dans toutes les opinions peu discutées, dans tous les préjugés. C'est l'opinion selon laquelle l'athéisme en tant que tel est une position plus rationnelle que son contraire qui est le théisme, c'est-à-dire l'affirmation d'un principe absolu, disons. Interrogeons-nous donc sur ce postulat. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, qui que l'on soit croyant, athée ou que sais-je, même scientifique pur et dur qui ne s'interroge pas sur autre chose que sur la science, on est tous tributaires d'une métaphysique. Et il faut que l'athée prenne conscience qu'il est métaphysicien, ce qui en général le met mal à l'aise, mais puisque son postulat est un postulat métaphysique. Si on résume un petit peu les choses, si on les simplifie à peine, on pourrait dire qu'il y a au fond trois métaphysiques possibles. Trois métaphysiques possibles, alors je les cite, hein, l'athéisme, le panthéisme et le, disons, monothéisme. L'athéisme, que dit-il ? L'athéisme ou le matérialisme ? Eh bien, il tient que l'univers n'a pas d'autre cause que lui-même et que toute réalité de l'univers se résout ou se réduit à la matérialité, à la matière. Alors, on discutera ensuite de cette thèse, mais ça, c'est la thèse matérialiste. L'univers n'a pas d'autre cause que lui-même et il est en lui-même réductible au jeu de la matière. Deuxième métaphysique, la métaphysique panthéiste. Alors, pour vous donner une idée, c'est la métaphysique des grandes religions orientales, hindouisme, bouddhisme, etc. Une métaphysique panthéiste pense que l'univers procède d'une seule réalité, qui est au fond l'absolu. Cette réalité, elle est d'une certaine façon autant matérielle que spirituelle. On peut l'appeler le divin, mais bien entendu, ne concevons pas le divin à la manière personnaliste des grandes religions monothéistes. C'est le divin, appelons-le l'être si on veut, tout procède de lui, tout est en lui, il est en toute chose. Ça, c'est le panthéisme. C'est la métaphysique du bouddhisme, par exemple, et de toutes les formes du bouddhisme. Et puis, la troisième métaphysique, que j'appelle maladroitement monothéiste, c'est celle qui consiste à dire que l'univers tient son existence, son être, d'un autre que lui. L'univers tient son être d'un autre que lui. C'est l'idée même de création. Il y a un absolu qui est distinct du monde. Alors ensuite, on peut l'appeler cet absolu, on peut l'appeler le grand horloger avec Voltaire, on peut l'appeler le bien absolu avec Platon, on peut l'appeler le dieu de l'alliance avec la Bible. Voilà. Donc vous voyez, trois types de métaphysique pour fonder un discours sur le monde. Alors maintenant, je vais les passer au crible d'une critique trop rapide. À nouveau, je surveille le temps qui s'écoule trop vite. Élément critique. Alors, je commence par la métaphysique matérialiste. Et là, elle présente une ou deux difficultés. D'abord, elle doit postuler que le monde est éternel. Ça, c'est facile à comprendre. Si le monde n'est pas éternel, ça veut dire qu'il n'a pas été à un moment. Donc, il n'y a rien, puisqu'il n'y a rien d'autre que la matière. Et donc, s'il n'y a rien, on ne voit pas comment, tout à coup, quelque chose serait. Donc, si je suis matérialiste, je dois postuler que le monde est éternel. D'autre part, contrairement à ce que fait Aristote, par exemple, qui pensait que le monde était éternel, mais que ça n'empêchait pas que le monde, selon lui, tirait son principe et son être d'un autre que lui. C'est la question de l'origine. Ce n'est pas la question du commencement. Le monde peut n'avoir pas commencé, mais quelle est son origine ? Pour le matérialiste, bien sûr, cette question ne doit pas être posée. C'est une question vide de sens. Il y a la matière, elle est éternelle, point. Mais il y a une difficulté supplémentaire au matérialisme, c'est tout de même la question de l'émergence de, disons, de la complexité. Comment penser la complexité croissante ? Comment penser, par exemple, le surgissement de la vie ? En partant du principe qu'il n'y a là que agitation aléatoire de la matière. Le matérialiste le dit depuis 25 siècles, ça lui pose pas de problème, il l'a jamais démontré encore. On ne sait pas. On est là face à une grande question. La complexification de la vie, l'émergence de la conscience, l'émergence de la pensée. La pensée qui tout à coup est dotée de propriétés qui n'ont plus rien de matériel, hein, puisque la pensée n'est plus située localement dans l'espace-temps de la même façon que la matière. Tout cela, le matérialiste, pour l'instant en tout cas, ne l'explique pas. C'est la difficulté de cette thèse. En général, le matérialisme d'ailleurs s'en sort plutôt en critiquant, en essayant de réduire les thèses contraires. Le plus bel exemple aujourd'hui, c'est le biologiste Dawking, auteur d'un célèbre ouvrage Pour en finir avec Dieu, modestement, qui explique l'idée de Dieu. Alors c'est vraiment intéressant parce que c'est digne des vertus dormitives de Molière. Donc l'idée de Dieu, c'est à l'image des gènes qui mutent. Alors ça, c'est une sorte de gène, culturel. Il appelle ça un mème. Et donc il y a des espèces de mutations de ces mèmes culturels, de ces schémas culturels qui finissent par donner l'idée de Dieu. Voilà. C'est vraiment Molière nous expliquant pourquoi ce produit fait dormir, parce qu'il a une vertu dormitive. Quoi. Alors, c'est vraiment un discours qui n'explique rien, hein, qui essaye de réduire de façon purement verbale. Je passe à la métaphysique panthéiste, qui, elle, est beaucoup plus redoutable. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de matérialistes aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. La plupart se sont convertis au panthéisme. Par exemple, le cher André Comte-Sponville, qu'on a accueilli ici même il y a 3 ou 4 ans, a dû avouer finalement qu'il n'était pas matérialiste, qu'il était panthéiste. Ce qui est une position beaucoup plus cohérente. En effet, le panthéiste n'a pas besoin d'accorder un primat de la matière, il n'accorde qu'un primat logique à l'être matériel, spirituel, je dirais, on est au-delà de ces distinctions-là. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir des physiciens, des spécialistes de la mécanique quantique, certains parmi nous, ça leur dit quelque chose, avec les propriétés étranges de la matière, le principe d'incertitude, etc., se réclamer de métaphysique panthéiste. C'est intéressant parce qu'au moins, ils ont conscience qu'on n'échappe pas à une métaphysique. La difficulté du panthéisme, à mon avis, mais elle est peut-être surmontable, j'en sais rien, c'est de pouvoir penser les distinctions. Parce que un discours du tout est dans tout est tout de même pas un discours qui permet le déploiement d'une parole scientifique. Une parole scientifique, c'est quand même une parole qui distingue. Comment la science peut-elle être possible sans les distinctions fondamentales entre l'esprit qui pense, qui produit une théorie, et le monde qu'on cherche à penser, entre le sujet et l'objet. Ce sont des questions philosophiques, je ne les résous pas, je ne fais que les soulever. Le monothéisme, de son côté, Il a une assise. Ce qui est intéressant dans le monothéisme, c'est qu'il y en a plusieurs. C'est qu'il y a un monothéisme. On pense toujours que le monothéisme est la propriété des religions dites monothéistes, mais il y a un monothéisme philosophique qui comment dire, ne doit rien aux religions. Enfin, le monothéisme d'un Platon ou d'un Aristote ne doit rien au judaïsme, par exemple. Par le simple raisonnement philosophique, Aristote, par exemple, arrive à l'idée d'un être nécessaire par lui-même, et donc source de ce monde qui, lui, n'est pas nécessaire, ce monde contingent, ce monde de la variabilité, hein, ce monde qui pourrait être différent. Aristote, par un raisonnement logique, montre que cela débouche sur l'idée d'un être nécessaire, qu'il appelle Dieu. C'est le monothéisme philosophique. Est-ce que le monothéisme présente une difficulté? Je crois que oui. Là encore, je ne l'ai pas, à titre personnel, vraiment surmonté. C'est tout de même que le monothéisme est dualiste, c'est-à-dire qu'il pense l'absolu, mettons Dieu, si vous voulez, le grand horloger, créateur d'un monde qui n'est pas Dieu. On a assez souligné ce monde désacralisé. Bon. Donc comment penser la dualité, finalement? Si Dieu est l'absolu, comment peut-il y avoir quelque chose en dehors de l'absolu? Alors, les théologiens ont des réponses, mais c'est sans doute la difficulté métaphysique de cette métaphysique-là. Voilà. Étant donné qu'à mon avis, la métaphysique trinitaire, c'est-à-dire chrétienne, par l'idée que Dieu est en lui-même relation, peut donner une piste. Un Dieu qui est en lui-même relation suscite de la relation, et donc suscite d'une certaine façon dans l'unité de l'altérité. Bon. Pour le Dieu musulman, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on est dans un monothéisme absolu, et l'idée d'alliance n'est pas présente, hein, et l'idée de relation en Dieu, surtout pas. Je termine donc cette partie peut-être un peu technique. Ce que je voulais surtout montrer là, c'est que l'athée est un métaphysicien qui s'ignore. C'est ça le point important. C'est de dire que celui qui est matérialiste est un métaphysicien. C'est-à-dire qu'il pose une thèse. Tout est matière, dit-il. Mais cette thèse n'est pas une thèse qui appartient au discours scientifique. Donc il pose une thèse métaphysique, il est important qu'il en ait conscience. Et quand on dit un matérialiste qui est métaphysicien, en général, il n'aime pas beaucoup. Je termine donc cet exposé un tout petit peu trop long, mais il y aura encore de la place pour les questions. J'ai voulu montrer ici comment, dans l'opinion la plus étourdie, la moins autocritique, le scientisme est à l'œuvre, et comment ce scientisme est une position autocontradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, elle refuse tout questionnement métaphysique, et en même temps, en disant « il faut refuser tout questionnement métaphysique », elle pose une thèse qui n'est pas une thèse scientifique, qui est une thèse qui est au-delà de la science. Comment le scientisme, pour la culture, stérilise ce qui est à l'origine même de l'interrogation scientifique, c'est-à-dire l'émerveillement, la capacité d'être saisi par la complexité du monde, par la beauté du monde, par son intelligibilité, ce que nous disait Einstein. Comment le scientisme fait du mal à la science? Et je suis frappé comment dans notre culture, là, finalement, il y a un regard très ambivalent sur la science. D'un côté, la science, elle est idolâtrée. C'est la science. Monsieur, c'est prouvé scientifiquement. Quand un élève vous dit « Monsieur, c'est prouvé scientifiquement », vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Hein. Bon. Une espèce d'idolatrice sans esprit critique, sans qu'on s'interroge sur qu'est-ce que ça veut dire prouvé scientifiquement. Et d'un autre côté, cette science idolâtrée, elle dégoûte tout le monde. Parce qu'au fond, elle apparaît comme quelque chose qui n'a aucun enjeu humain, aucun enjeu existentiel ou spirituel. Je suis très frappé de voir, par exemple, dans l'histoire de la philosophie, jusqu'en 1950, de très grands philosophes ont été de très grands scientifiques. Les derniers, c'est Husserl, Bergson, qui était un bon mathématicien. Il n'a pas fait carrière, il n'a pas voulu. Husserl, un immense logicien. Bon, c'est les très grands philosophes du XXe siècle. À partir de 1950 arrive la génération existentialiste, Et Jean-Paul Sartre était quelqu'un qui avait un mépris mais absolu pour la démarche scientifique. Ça ne sert à rien, ça ne dit rien. Il y a des débats fameux du romancier hongrois Arthur Koestler, le fameux auteur du Zéro et l'Infini, qui copinait avec Camus et Sartre dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés. Et Koestler, qui était un passionné de science, qui s'est d'ailleurs intéressé à Galilée, n'arrivait pas à leur faire comprendre que la science était intéressante, que la science faisait partie de la culture. Pour les existentialistes, la science n'a rien à dire à la culture. Et bien c'est ça qu'a produit le scientisme, en fait. D'un côté, la science est toute puissante dans ses procédures. De l'autre, elle n'a rien à dire à l'homme. C'est terrible, quand même. Bon. Que faut-il donc, ça sera vraiment ma conclusion, pour instaurer un vrai dialogue aujourd'hui entre science et foi? Eh bien, vous avez compris que pour faire un vrai dialogue, il faut une médiation. Et la bonne médiation entre le discours scientifique et le discours, disons, théologique, c'est la philosophie. Il faut toujours convoquer un philosophe quand on fait discuter des religieux et des savants. Surtout quand les savants sont athées et que les religieux ne sont pas savants. Bon, à quoi elle sert la philosophie ? Trois choses. D'abord, au niveau de la lecture des textes bibliques par exemple, ou pour le Coran, il y a tout un travail en... Là, je n'ai pas de compétences par rapport à ça, mais c'est ce qu'on appelle l'herméneutique. C'est-à-dire comment un texte biblique doit être lu, quel est son genre littéraire, quelle est sa portée, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il ne veut pas dire. Ça, c'est le travail de ce qu'on appelle l'herméneutique. En même temps, l'autre versant de la philosophie, c'est l'épistémologie, c'est-à-dire la critique des théories scientifiques. Qu'est-ce que c'est une théorie scientifique ? Qu'est-ce qu'elle cherche à dire ? Comment elle dit le monde ? Est-ce qu'elle dit le monde tel qu'il est ? Ou est-ce qu'elle le schématise ? Est-ce qu'elle l'approche par des modèles ? Et beaucoup de gens ont une image très très naïve de la science. C'est prouvé scientifiquement. Et puis enfin, la philosophie se fait philosophie de la nature. C'est-à-dire, vous vous rappelez... Le passage à Copernic, c'est le changement de paradigme dans la représentation de la nature. Le cosmos hiérarchique, différencié, et puis on passe à l'univers. Aujourd'hui, il faudrait repenser, il y a des gens qui travaillent d'ailleurs, il faut repenser une philosophie de la nature qui intègre en particulier l'évolutionnisme. Et certains ont essayé, Bergson est un des premiers philosophes à avoir essayé de penser en philosophe la science de son temps. Et Teilhard Chardin, alors je me prononce pas sur, je suis pas du tout biologiste, et puis, mais Teilhard Chardin a au moins ce mérite d'avoir essayé de penser la question de Dieu dans un univers en évolution. Voilà, ça c'est le versant philosophie de la nature, c'est ce qui nous manque probablement le plus aujourd'hui. En tout cas. Et si jamais ça vous intéresse dans les questions, je vous dirai comment Darwin a perdu la foi. C'est très intéressant. Darwin a perdu la foi parce qu'il avait comme philosophie de la nature ce que j'ai appelé la natural theology. Et justement, la natural theology tient pas la route par rapport au spectacle abominable de la struggle for life, c'est-à-dire du, comment on dit en français, la lutte pour la vie. Voilà. Si Darwin avait connu autre chose que la natural theology, en particulier s'il avait connu saint Thomas d'Aquin, il aurait pu trouver des réponses à ces questions. C'est une autre histoire. Je conclus en disant qu'entre sciences naturelles, philosophie et théologie, doit s'instaurer un dialogue critique, un dialogue qui soit respectueux des différences de perspective, des approches respectives de ces différents discours. Il faut distinguer les discours. Un discours de type théologique n'est pas un discours de type scientifique et n'est pas un discours de type philosophique, mais il faut les distinguer pour les articuler, car nous ne parlons que d'un seul monde. Et donc il faut que ces différents discours puissent converger vers un même objet. Comme disait Jacques Maritain, il faut distinguer pour unir. Voilà. Et donc, pour vous dire qu'il y a des gens qui travaillent à ça, pour la première fois en France, une chaire universitaire sciences et religions a été créée à l'Université catholique. Et s'il y a des gens parmi vous que ça intéresse, ils trouveront la petite brochure à la sortie. Voilà, merci et nous avons un quart d'heure pour les questions.